Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Comment la vie s'organise-t-elle en Libye? Comment le poids de la guerre civile se fait-il sentir? Quelles sont les préoccupations quotidiennes de la population? Autant de questions que nous poserons au chercheur Ali Ben Saad, spécialiste de la Libye et qui en revient tout juste. Le gouvernement d'entente nationale de Fayez el-Sarraj, la bataille de Sirte contre l'État islamique, la prise du croissant pétrolier par le général Haftar et les critiques contre la France sont les autres thèmes que nous aborderons avec lui. La disparition de l'ancien président israélien et prix Nobel de la paix, Shimon Peres, cette semaine, à l'âge de 93 ans. Nous y reviendrons dans la revue de presse croisée Israël Monde Arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanté au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Ali Ben Saad, bonjour.
Bonjour.
Professeur des universités, attaché à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, spécialiste du monde arabe et du Maghreb en particulier, et vous rentrez justement de Libye. Alors, comment avez-vous pu rentrer dans ce pays qui est difficile, je crois ?
Ça a été d'autant plus difficile cette fois-ci que l'incident, en fait, des soldats français qui sont morts en Cyrénaïque, et supposés morts donc aux côtés des forces de Haftar, a eu un effet catastrophique, je dirais cataclysmique, dans le sens qu'il a vraiment fait remonter tout le sentiment anti-occidental, anti-français, et les traces, les traumatismes de l'intervention franco-anglaise sont encore là. Alors ça a été un peu vu comme une sorte de double jeu des Occidentaux et de la France qui, d'un côté, soutenait le gouvernement de Sarraj, qui est un gouvernement d'union nationale, qui, et je l'ai constaté, était assez absent sur la bataille de Sirte. Et voilà qu'on se rend compte que ces forces-là, extérieures, aussi petites soient-elles, mais quand même, elles étaient là. Donc ça a eu un effet catastrophique. Et ça a fait sortir du bois tous ceux qui avaient été neutralisés par le processus de réconciliation, qui ne le souhaitaient pas, mais il y avait une dynamique sociale, une dynamique politique, une dynamique internationale qui allait dans le sens de cette réconciliation, qui a neutralisé tous ces gens-là, notamment les extrémistes islamistes, le mufti Guériani, etc., et qui ont trouvé dans cet incident un prétexte pour sortir du bois, pour à la fois attiser le sentiment occidental, mais par ricochet en atteindre le gouvernement de Sarraj, qui était censé justement être le produit, ou du moins soutenu par l'Occident.
Oui, alors rappelons-le, il y a actuellement une quasi-partition, enfin en tout cas il y a deux camps qui ne s'entendent pas encore. Il y a le camp de Sarraj, qui est le premier ministre installé par les Nations Unies. Et puis, il y a toujours le Parlement de Tobrouk et sa partie armée, qui est le général Haftar, qui, lui, continue finalement une action qui est quasi sécessionniste en Cyrénaïque, c'est cela.
Le gouvernement Sarraj a été, au début, très bien accueilli en Tripolitaine, et ce qui fait qu'il a pu engranger des soutiens, même potentiellement en Cyrénaïque, même si le contrôle lui échappait, parce qu'il y avait vraiment, et il y a toujours, un très fort désir de stabilité. Alors, par contre, effectivement, il y a une sorte de mécontentement, y compris en Tripolitaine. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a la question sociale et économique qui n'arrête pas de se dégrader. Je vais vous donner un indicateur. Entre deux voyages, l'euro, il y a un an et quelques, s'est changé à 1,80 dinars libyens. Il y a quelque temps, il s'est changé à 2,80. Ben, cette fois-ci, il s'est changé à presque 6. Et donc, c'est toutes les répercussions sur les produits alimentaires qui sont importés, etc., etc. Vous aviez, la dernière fois que j'y étais, il y avait eu une interruption à peu près de 5-6 heures d'électricité. Elle est de 8-9 heures maintenant. Alors, vous imaginez, c'est tout ce qui marche avec, y compris dormir la nuit sans climatiseur, etc., etc. Alors, vous avez aussi la pénurie d'essence, parce que la Libye est un pays pétrolier, mais il importe les produits raffinés. Alors l'essence a un coût dérisoire, mais il manque. Et on voit de ces chaînes un peu effrayantes, régulées par des milices, etc., pour avoir accès à l'essence. Il y a le problème des liquidités, qui manque beaucoup. Les gens ont leur paye potentiellement, etc. Mais en fait, ce qui manque, c'est le dinar libyen, et ce serait par ricochet, parce qu'il n'y a pas de liquidité en devises, que les gros commerçants, etc., rachètent des devises avec du dinar, mais à chaque fois avec une masse de dinar de plus en plus importante, et en fait, pour se sécuriser vis-à-vis de cette situation, ils stockent, si je peux dire, des dinars, des stocks à chaque fois plus importants pour pouvoir racheter des devises et alimenter leur circuit commercial. Mais ça a un effet catastrophique sur les populations. Moi, j'étais là-bas à la veille de l'Aïd, et donc effectivement les gens ne peuvent pas tirer plus de 30 euros par jour. Donc tout cela a créé un peu une situation de déception, mais elle a un effet paradoxal. Autant les gens sont à la fois déçus par le pouvoir de Sarraj, autant ils sont encore moins prêts à le contester et à le déstabiliser. Parce que vraiment, le besoin de stabilité se fait encore plus sentir et les gens sont prêts à n'importe quel gouvernement qui ramènerait la stabilité. Et de fait, ils acceptent potentiellement ce gouvernement de Sarraj malgré toutes ses lacunes.
Et alors dans ce contexte, comment la population juge l'aventure du général Haftar?
C'est très mitigé là en fonction des lieux. Alors oui, je vais vous dire d'abord le contexte un peu politique avant que Haftar intervienne. On était justement, ça confirmait ce que je vous disais, malgré la déception à l'égard du gouvernement de Sarraj, on était dans un grand processus de détente. Les internes avaient lâché l'oléoduc de gaz qui venait de Charara. Les Warshafena avaient libéré la route entre Zawiya, Tripoli, etc. Et que même, c'est presque confidentiel, mais je crois que c'était une évidence, des gens de Misrata étaient partis en Cyrénaïque pour discuter avec l'entourage du général Haftar. Et chose inenvisageable, il y a quelques semaines, ils envisageaient la possibilité même de l'accepter comme ministre de la Défense, ce qui était la grande revendication des gens de Cyrénaïque. Peut-être sous forme, je dirais, d'un directoire où il y aurait Sarraj, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il intervient. En fait, je crois que le général Haftar s'est trouvé acculé par un compromis qui lui enlevait tous les arguments d'absence d'État, de marginalisation, etc. Et sa prise de contrôle des terminaux pétroliers, en fait, elle avait cet objectif pratique et symbolique de casser ce processus de réconciliation et de casser la possibilité de compromis. Ce n'est pas tant le pétrole, parce que tout le monde le sait, grâce aux Occidentaux, la compagnie pétrolière et la banque centrale de Libye sont indépendantes. Il ne peut pas vendre le pétrole. D'ailleurs, quelques jours après, il a remis à la compagnie le soin de compagnie qui est sous l'autorité du gouvernement de Sarraj.
Qui a rappelé d'ailleurs qu'elle était, qu'elle faisait allégeance à Sarraj.
À Sarraj, etc. Et ça montre que, en fait, Haftar a des ambitions de pouvoir national. Donc, c'est pas un projet fédéraliste de Haftar. Haftar veut prendre le pouvoir et tout le pouvoir.
Ali Ben Saad, autre point qui intéresse souvent beaucoup les Occidentaux, c'est Sirte avec la position de l'État islamique. Un dernier carré est encore dans la vieille ville de Sirte. Est-ce que pour la population, c'était quelque chose d'important?
Alors oui, justement, là, je voudrais revenir. La bataille de Sirte, c'est vrai que les Occidentaux y tenaient beaucoup. Ils y ont poussé le gouvernement de Sarraj. Mais c'était aussi une question nationale importante. L'État islamique à Sirte était vraiment très mal vécu par la population. Et moi, personnellement, je pensais, et je pense beaucoup de gens libyens et le gouvernement de Sarraj lui-même, que ça pouvait être une bataille stratégique et symbolique, notamment, qui pourrait réunifier un peu les Libyens autour de ça. Je fais d'ailleurs une petite parenthèse historique. Vous savez que, bien sûr, on a toujours eu la Tripolitaine et la Cyrénaïque depuis la période punique, hellénique, romaine, etc. Et pourquoi les Ottomans, quand ils ont occupé ces deux parties, les ont réunifiées? Mais parce que Sirte, en fait, c'est le chemin le plus court vers le Sahel, à une époque où le commerce transsaharien devenait florissant. Donc, si je peux dire, Sirte a été la raison de cette union de la Libye, qui remonte quand même à quelques siècles. Là aussi, j'égratigne un peu les théories qui donnent de l'importance au fédéralisme, parce que depuis, quand même, on a eu un véritable État-nation. Et donc, effectivement, c'était une bataille très importante. Et il a commencé à y avoir une course entre le gouvernement de Sarraj et celui du général Haftar, qui n'a pas pu empêtrer dans ses problèmes à Benghazi, y accéder. Alors, c'est vrai donc que le gouvernement de Sarraj et les forces donc de ce gouvernement ont beaucoup avancé. Ceci dit, elles ont payé un très lourd tribut. Je vous donne quelques chiffres. Jusqu'à quelques jours, il y avait presque eu 600 morts. Et pour comparer, c'est quand même une ville d'à peine 400 000 habitants, parce que 70% des combattants à Sirte, c'est les milices, encore une fois, de Misrata, qui payent un très lourd tribut. Je connais personnellement 4 personnes directement avec qui je discutais souvent de la situation, etc. Et c'est vrai que quand j'ai demandé après elles étaient mortes. C'est que, en fait, Daesh ne correspondait pas à la force qu'ont donné les médias, notamment les experts américains. Il y a peut-être à peine 500 combattants, dont 300 sont morts et 150 à 200 qui sont toujours retranchés. L'essentiel, c'est des Tunisiens, en fait. Hein. On se rend compte que l'écrasante majorité, c'est des étrangers. C'est pour ça que moi, je n'ai jamais vu un vrai danger, sauf tactique et militaire, à Sirte. Sirte, c'était un djihadisme d'importation qui n'avait réussi à avoir aucun ancrage social.
Le danger, c'est plutôt le général Haftar.
Le danger, c'est le général Haftar et en Cyrénaïque. Et effectivement, je pense que le général Haftar en Cyrénaïque a réussi, j'utiliserai un terme, à syrianiser la situation, c'est-à-dire à créer une sorte de situation à la syrienne, c'est-à-dire qu'il a radicalisé les camps en présence. Face à lui, je me souviens la dernière fois que nous en avions parlé dans votre émission, je disais qu'il y avait au moins, sur 7 fronts, il y avait au moins 3 fronts qui n'étaient pas islamistes. Aujourd'hui, en fait, à cause de toute la répression qu'il a menée, etc., les islamistes ont pris le dessus sur tous les fronts. Ce qui, quelque part, aussi le conforte, en fait, dans cette radicalisation, et fait que il est un problème, mais il est en train de devenir incontournable, parce que il tire les dividendes de cette situation où la population y voit un abri, y voit une protection. Et je pense que c'est un de ces dangers, si je peux dire, actuellement, à la situation en Libye.
Merci Ali Bensad, professeur des universités à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8.
Merci.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Michel, la mort de Shimon Peres fait évidemment la une de la presse israélienne, à commencer par la cérémonie des obsèques qui a eu lieu hier à Jérusalem.
Une cérémonie émouvante à la fois par sa simplicité et surtout par le nombre important de personnalités venues rendre un dernier hommage à Shimon Peres, personnage mal aimé de la classe politique israélienne, mais qui a su gagner finalement l'admiration de tous, de ses alliés et aussi et surtout de ses adversaires politiques. On peut remarquer que lors des discours qui ont été prononcés par l'actuel président israélien Reuven Rivlin et par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, les mots « accord d'Oslo » ne figuraient pas, comme si cet épisode avait tout simplement été rayé de l'histoire de l'État hébreu. Une omission qui a sûrement été notée par Mahmoud Abbas, le président palestinien, le seul dirigeant du monde arabe qui a assisté à la cérémonie. Mahmoud Abbas a serré la main de Benjamin Netanyahou et a discrètement échangé quelques mots avec le Premier ministre, mais cela s'est fait loin des caméras, a souligné également le pardon qui a été demandé par le président Rivlin pour le tort qui a été causé à Shimon Peres.
Alexandre, comment la presse arabe commente-t-elle le décès de Shimon Peres et surtout comment le voit-elle ?
très peu de réactions, en fait, si ce n'est des réactions négatives. Alors, un faucon aux allures de colombe, c'est un peu le résumé de ce que pense la presse arabe. Alors, des journalistes ne manquent pas de faire une liste de tout ce qu'ils reprochent à Shimon Peres. C'est d'abord, aux yeux des Palestiniens, un colon de la première heure venu s'installer dans leur pays dès 1934. C'est aussi l'homme qui a rassemblé des armes pour la milice sioniste à Ghana avant la Nakba, ou la création de l'État d'Israël en 1948, et pour les Égyptiens, c'est l'homme qui a convaincu la France à participer à l'agression contre l'Égypte en 1956, tandis que pour les Libanais, c'est le bourreau de Cana. Peres était en effet Premier ministre quand les bombardements israéliens de ce village du Sud-Liban ont tué plus de 100 civils.
Nous retournons à Jérusalem avec vous, Michel, car de façon quasi unanime, vos journaux ne parlent que du décès de Shimon Peres. Alors comment cette nouvelle est-elle perçue par la presse israélienne ?
Eh bien, la presse en Israël a bien sûr suivi pas à pas les derniers jours de son 9e président. Le dernier hommage, titre m'arrive, la séparation, c'est la manchette de Yedioth Ahronot. Pour Israël Hayom, le journal proche du pouvoir, c'est le dernier chemin de Shimon. Aretz, lui, met pour sa part l'accent sur le fait que des dizaines de dirigeants politiques venus du monde entier ont assisté aux obsèques. Et plusieurs commentateurs soulignent le fait que Shimon Peres était le symbole d'une image positive d'Israël et qu'avec sa disparition, c'est aussi cette image qui s'efface.
Et on peut dire que les Israéliens et les journalistes également ont appris à aimer Shimon Peres.
Il suffit de citer les titres des éditoriaux, des chroniques et d'autres articles pour comprendre la portée de la disparition de Shimon Peres, l'entrepreneur numéro un, le grand rêveur, les mots et les actes, l'homme qui était là, le monde de Peres, jusqu'aux étoiles et aussi, après lui, le déluge. Alors, il est question également du culte qui s'est développé autour de la personnalité de Peres. Et on remarque qu'à la fin de sa vie, il était presque plus aimé par l'aile droite de la classe politique que par ses amis à gauche. Et puis, Eric, il est aussi beaucoup question de Sonia, son épouse, probablement la personne qui a le plus influencé Shimon Peres et qui avait décidé de ne pas s'installer avec lui à la résidence présidentielle à Jérusalem.
Alors à l'inverse, Alexandre, ce qui fait la une de la presse arabe, c'est l'autorisation votée par le Congrès américain de mener des poursuites contre l'Arabie saoudite concernant les attentats du 11 septembre 2001.
Oui, c'est la loi dite JASTA qui permet de poursuivre les sponsors du terrorisme et qui avait été bloquée par un veto du président Barack Obama. Un veto que le Congrès a fait voler en éclats à une écrasante majorité. Dorénavant, les parents des victimes peuvent poursuivre l'Arabie saoudite devant des tribunaux américains. Une décision considérée comme une déclaration de guerre par les internautes saoudiens qui se sont déchaînés contre Washington. La presse saoudienne, quant à elle, note l'éloignement progressif des Américains au gré de leur rapprochement avec l'Iran. Une presse qui rappelle que l'Arabie saoudite possède des investissements aux États-Unis évalués à plus de 700 milliards de dollars.
La presse commente également un jugement du tribunal des référés au sujet des îles de Tiran et Sanafir en mer Rouge.
Oui, ce jugement casse la décision du tribunal administratif qui abrogeait les accords entre l'Égypte et l'Arabie saoudite et en vertu desquels le Caire cédait à Riyad ou rétrocédait les deux îles. Une décision qui avait provoqué colère et manifestations réprimées en Égypte. Reste que pour la majorité des commentateurs de la presse égyptienne, ce nouveau jugement est nul et non avenu puisqu'il est en contradiction avec la Constitution qui stipule que seul le Conseil d'État peut statuer sur des décisions prises par le tribunal administratif.
Alexandre, plusieurs journaux arabes s'intéressent aussi à la polémique en Jordanie sur la réforme des programmes scolaires.
Oui, conservateurs et islamistes jordaniens se sont alliés pour dénoncer cette réforme qui a élagué les programmes d'arabe et de religion islamique des références au djihad et a remplacé les images de filles voilées par celles de non-voilées. Une réforme reflétant la volonté du gouvernement de laïciser progressivement le pays. La presse revient dans ce cadre sur l'assassinat de l'écrivain de gauche Nahed Hattar, accusé d'avoir porté atteinte à l'islam.
On termine cette revue de presse atypique avec votre photo du jour, Michel Paul.
Eh bien, vous l'avez deviné, c'est une photo de Shimon Peres. Mais parmi les centaines de photos que l'on trouve dans la presse, on peut retenir celle qui est probablement la plus symbolique. Le prix Nobel de la paix lance vers le ciel une colombe d'un blanc immaculé. et il la regarde prendre son envol avec un sourire émerveillé.
Merci Michel, merci Alexandre. François Porcheron a réalisé cette émission que vous pouvez réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr ainsi que sur notre page Facebook. Samedi prochain, si l'actualité nous le permet, nous évoquerons le cinéma iranien avec l'une de ses meilleures spécialistes, la linguiste franco-iranienne Asal Bagheri. En attendant, passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. Tout de suite, un nouveau journal.